Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours une joie d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et en même temps, c'est toujours une responsabilité importante que Dieu m'aide, que Dieu nous aide à bien saisir et comprendre ce qu'il veut nous dire ce matin. Car Dieu va parler à chacun d'entre vous d'une façon ou d'une autre. Dieu connaît votre situation, Dieu connaît ma situation, et il sait aujourd'hui ce que vous avez besoin, il sait ce que j'ai besoin. Pour commencer, je voudrais lire un verset que vous devez certainement connaître dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Amen. C'est vrai qu'on aime ce verset-là parce que on sent qu'il y a une puissance, une autorité derrière la parole de Dieu. Il est même rajouté « plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants ». Ça plante le décor. C'est peut-être la deuxième partie du verset qu'on aime le moins. « Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alors, c'est sûr que lorsqu'on entend ce verset, comme je viens de le dire, on s'aperçoit combien la parole de Dieu peut nous bousculer. Son rôle est de séparer ce qui est de notre chair avec ce qui est né de l'esprit lorsque nous sommes nés de nouveau. Et jusqu'à preuve du contraire, et j'ai pas envie d'essayer, ça doit faire mal de recevoir une épée dans le corps. Est-ce que quelqu'un a déjà reçu un coup d'épée ici? Non? Ben moi non plus, et j'ai pas envie d'essayer. Mais on imagine très bien l'image. En d'autres termes, la parole de Dieu ne peut pas nous laisser insensibles. Bien au contraire, elle nous bouscule dans nos préjugés, dans nos croyances, dans notre éducation. Elle pointe dans notre vie ce qui doit être enlevé, séparé entre la vie de l'esprit et la vie de la chair. Et en même temps, la parole de Dieu nous dit qu'elle est aussi une nourriture pour notre esprit régénéré en Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, je vais essayer de vous donner faim pour que, à travers ce que nous allons partager, vous puissiez après approfondir. On va juste voir l'entrée. Chez vous, vous verrez le plat. En France, il y a le fromage, le dessert, etc. Voilà. J'ai appris la semaine dernière, dans les cours sur la prédication que notre pasteur David nous donne, quelques-uns ici ont participé, que la prédication devait durer que 15 minutes, voilà. Et là, je sens des gens contents et heureux. Ouais, que 15 minutes. Alors, je ne vous raconte pas le lever de bouclier pendant cette étude biblique sur la prédication qu'il y a eu entre nous. Et en moi, je me disais, mais 15 minutes, c'est pas grand-chose. Si en plus on compte le temps de lecture de la parole, ben, il ne va pas rester grand-chose. Alors du coup, je lui ai posé la question à David. Et je lui dis, est-ce qu'on doit compter le temps de lecture? Et là, David, il a répondu, non. Ah, oh, quel soulagement de savoir qu'on ne compte pas le temps de lecture. Donc ce matin, vous ne me compterez pas le temps de lecture, parce que nous allons lire toute une lettre de l'apôtre Paul. Entièrement, nous allons lire une lettre de l'apôtre Paul. Savez-vous combien l'apôtre Paul a écrit de lettres? Oui, celles qu'on a, on va dire. C'est sûr qu'il en a écrit beaucoup plus, mais celles qui ont été mises dans le canon de la Bible. Bon, il en a écrit 13. La mienne, elle se situe entre Genèse et Apocalypse. Bon, ça vous aide pas trop. Après, pour vous aider, on prêche rarement dessus. J'ai entendu qu'une seule fois un sermon, une prédication dessus. Et elle se trouve entre Tite et Hébreux. Qui suis-je ? Philémon, vous connaissez bien votre parole. C'est bien. Alors je vous propose de lire la lettre de Philémon. Et vous ne comptabiliserez pas le temps de lecture, n'est-ce pas ? Mais vous savez que la parole de Dieu se suffit à elle-même. Lire et proclamer la parole de Dieu, l'entendre, déjà, œuvre en nous. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre collaborateur bien-aimé, à Appia, notre sœur, à Archip, notre compagnon d'armes, et à l'Église qui est dans ta maison. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends toujours grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Que ta participation à la foi soit agissante par la connaissance de tout ce qui est bon en nous pour le Christ. J'ai eu en effet beaucoup de joie et d'encouragement à cause de ton amour, car par toi, mon frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie dans le Christ une grande assurance pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te supplier au nom de l'amour, tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te supplie pour mon enfant, celui que j'ai engendré en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il est bien utile, et à toi, et à moi. Je te le renvoie, lui, qui est une partie de moi-même. Moi, j'aurais souhaité le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, tant que je suis en prison pour la bonne nouvelle. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, pour que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être, en effet, a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouve pour toujours, non plus comme un esclave, mais ce qui est mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il est tout particulièrement pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, et dans la chair et dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton compagnon, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai moi-même pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, mon frère, rends-moi ce service à moi dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur dans le Christ. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras encore au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Alors, un peu de contexte sur cette épître, sur cette lettre que Paul écrit à son ami et frère Philémon. Paul est emprisonné à ce moment-là à Rome, et Philémon est un chrétien de Colosse, converti à travers le ministère de Paul. C'est quelqu'un de condition aisée, car il possède des esclaves et a une maison assez grande pour accueillir l'église de la ville, la communauté des chrétiens de la ville. L'objet de la lettre concerne un des esclaves de Philémon, à savoir Onésime, qui s'était enfui de chez son maître après l'avoir vraisemblablement volé. Donc Paul renvoie Onésime à Philémon, son maître, avec cette lettre d'explication pour Philémon. Alors j'ai décomposé cette lettre en trois parties. La première partie, versets 1 à 3, qui traite des salutations de Paul. La deuxième partie, les remerciements de Paul à Dieu, versets 4 à 17, il me semble, et la dernière partie, la requête de Paul. Nous voyons dans la première partie que cette lettre est adressée à trois personnes, et la plupart des commentateurs pensent que Apphia est la femme de Philémon et que Archip est leur fils. C'est donc une lettre personnelle que Paul envoie à Philémon, mais il est aussi dit qu'elle est destinée à être lue à l'Église. Si la lettre devait être lue devant l'Église, devant l'Assemblée de Colosse, c'est qu'il y avait un enseignement à tirer pour chacun des chrétiens de cette communauté. Vous en conviendrez, non? Lorsqu'on lit une lettre, c'est qu'il y a certainement quelque chose, des informations à en tirer. Alors pour nous aujourd'hui, en l'an de grâce 2024, est-ce que l'Église de Semur a des choses à tirer de cette lettre? Y a-t-il un enseignement à entendre pour nous ce matin? Question rhétorique, vous connaissez la réponse. C'est oui, bien sûr, puisque la parole est vivante, comme elle a dit, elle est efficace, et Dieu ne change pas. Premièrement, Paul se définit comme prisonnier de Jésus-Christ. Par cela, il rappelle que suivre Jésus-Christ, proclamer l'Évangile, n'est pas sans risque, et qu'il y a un prix à payer. Et pour Paul, le prix à payer était d'être en prison à ce moment-là de sa vie, à cause de l'Évangile qu'il prêchait. Alors, contrairement à la plupart des épîtres de Paul, ici, Paul ne se présente pas comme apôtre. Premièrement, parce que c'était une lettre privée destinée à la famille de Philémon. Mais aussi, et nous allons le voir plus tard, que cela va lui permettre de mettre l'accent non pas sur son autorité légitime en tant qu'apôtre, mais de mettre le focus sur ce qui doit nous animer, à savoir l'amour de Christ, qui doit être toujours la seule et véritable raison de notre vie chrétienne, de nos échanges et comportements les uns envers les autres. Mais dans certains cas, dans certaines lettres, Paul devait réaffirmer son autorité reçue de la part de Jésus-Christ, parce que apôtre veut dire envoyé, et à chaque fois c'est apôtre de Jésus-Christ, il était envoyé par Jésus-Christ, car il était attaqué sur ce qu'il prêchait, et certaines personnes mal intentionnées voulaient revenir à la loi de Moïse. La deuxième partie, versets 4 à 7, il est question des remerciements à Dieu de Paul pour la foi et l'amour de Philémon. Paul remercie Dieu. Paul ne remercie pas Philémon en lui disant et en le louant, mais Dieu seul. Cela nous montre que c'est Dieu qui agit en nous lorsque nous nous comportons bien, lorsque nous agissons bien. C'est Dieu qui agit en nous par son Saint-Esprit. Et quelque part, nous n'avons aucune gloire à en tirer. Et comme on l'a fait ce matin, nous glorifions Dieu pour ce qu'il fait en nous. Donc Paul remercie Dieu pour l'attitude de Philémon, tant dans sa foi en Jésus-Christ que dans son amour pour les saints. Après avoir dit ça, ça a certainement quand même encouragé Philémon de lire ce que Paul lui écrivait et d'entendre que Paul remerciait Dieu pour son attitude. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, si je reçois une telle lettre d'un frère en Christ, je me sens encouragé. Je me sens encouragé et je me dis que je suis sur le bon chemin, que mon comportement est visible et qu'on voit des fruits en moi. Et ça me donne envie de continuer à suivre Jésus-Christ et à marcher sur ce chemin. Mais il y a un gros problème, c'est que cela n'arrivera jamais. Je ne recevrai jamais une lettre comme ça. Et vous savez pourquoi? Je n'ai pas d'esclave, oui. Pourtant, j'aimerais bien que mes fils, des fois, soient mes esclaves, mais C'est compliqué. Non, la raison est simple, c'est qu'aujourd'hui, on n'écrit plus de lettres. Aujourd'hui, on n'écrit plus de lettres. Il n'y a que les vieillards, expression que Paul utilise dans sa lettre, et on va expliquer un peu plus tard, ou comme dit les jeunes, des dinosaures comme les parents, qui connaissent ce que c'est de recevoir une lettre. Et nous sommes ces personnes-là qui se rappellent le temps où on s'écrivait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce temps-là, lorsque vous écriviez à votre fiancé ou même à des frères et sœurs, vous étiez dans la patience de recevoir la lettre de retour. Bon, bref, c'était une aparté aujourd'hui. Tout est instantané. Vous avez Snapchat, Facebook, Instagram, Piqué, Telegram, et tout se fait instantanément. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce qui est intéressant à voir au verset 7, c'est que non seulement je pense que Philémon a été encouragé, mais au verset 7, Paul dit « J'ai eu en effet beaucoup de joie et d'encouragement à cause de ton amour, car par toi, mon frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Non seulement Philémon a été encouragé, mais Paul, réciproquement, a été encouragé de l'attitude de Philémon dans l'église et pour la communauté qui se réunissait dans sa maison. Si on se met 2 minutes à la place de Paul, on comprend quel encouragement ça a pu être pour lui. Paul est en prison. Pourquoi ? À cause de l'évangile qu'il proclame. Et dans sa prison, il entend parler du bon témoignage de son ami et frère Philémon, qui s'est converti à son contact. À la place de Paul, j'aurais été aussi encouragé de savoir qu'il n'a pas été emprisonné pour rien, mais qu'à cause de l'évangile qu'il a proclamé un jour à Philémon, cela a porté du fruit dans la vie de Philémon et a même créé une église, une communauté dans la maison de cet homme et frère de conditions aisées. Il a été encouragé de voir les fruits qui ont porté suite à sa prédication de l'Évangile. Troisième partie, on vient au cœur du sujet, la requête de Paul à Philémon. Donc là, c'est la plus grande des parties, versets 8 jusqu'à la fin. Et du verset 8 au verset 17, Paul, avant d'écrire et d'exposer sa requête, il explique et expose la conversion d'Onésime. N'oubliez pas qu'Onésime est parti et a fui son maître Philémon. Donc Paul explique à Philémon ce qui est arrivé à Onésime. Il va jusqu'à utiliser le terme affectif « enfant et père » pour expliquer les nouveaux liens qui se sont créés entre eux suite à sa conversion par son témoignage. Au verset 8 et 9, nous voyons que Paul, ici, ne va pas sortir, comme je disais, sa casquette d'apôtre, qui lui confère une certaine autorité, mais il va faire appel à la seule motivation qui doit être, à savoir l'amour. Comme nous l'avons dit juste avant, Paul utilise le terme « vieillard », qui n'avait pas la même signification à l'époque. Ce mot était utilisé pour la tranche d'âge entre 50 et 56 ans. Bon, je suis vieillard, quoi. Mais il pouvait être aussi utilisé pour des personnes plus âgées. Et il avait pour but d'inviter les gens au respect pour un homme qui avait acquis, en fait, de la sagesse et de l'expérience, plutôt qu'une invitation à la pitié. On aurait pu se dire que Paul, en écrivant ça, voulait se faire plaindre. Ici, vous relisez toutes les épîtres de Paul, à aucun moment il ne s'est plaint de quoi que ce soit, bien au contraire. Le moment où il est le plus heureux, c'est lorsqu'il est en captivité. Ses lettres où il fait ressortir le plus de joie, c'est au moment où il est captif et prisonnier à cause de Jésus-Christ. Au verset 14, Paul explique que même si Onésime lui serait très utile, vu dans la position dans laquelle il se trouvait en prison. Parce qu'il faut savoir qu'en prison, c'était que des personnes extérieures qui pouvaient venir apporter à manger, donner des vêtements et faire des courses pour les personnes. Et donc, Onésime lui était très utile, et c'est ce qu'il dit. Il souhaitait, et il souhaite, Paul, respecter en fait la loi romaine de l'époque. À savoir, quand un esclave qui s'était enfui et était retrouvé, il devait être renvoyé à son maître pour y être jugé et puni. D'un côté, on peut voir que Paul est tenté de garder Onésime avec lui pour l'aider, et il dit pour l'aider pour la bonne nouvelle, pour l'évangile, qui lui serait très utile. Et d'un autre côté, il ne voulait pas se soustraire à la loi de l'époque. On voit l'intégrité que Paul a eue vis-à-vis de la loi, mais aussi de Philémon, à qui il ne voulait pas forcer la main, comme il le dit, mais qu'il souhaitait que cela vienne de lui-même et qu'il fasse ces choses de tout son cœur. Alors, pour donner un peu une illustration qui vaut ce qu'elle vaut, c'est comme si je suis dans une position financière plus que critique. Vous imaginez que j'ai des gros soucis, j'arrive pas à payer mes factures, etc. Et un jour, j'ai invité un frère en Christ, avec une position aisée dans la société. Aujourd'hui, on dirait un frère riche. Et qu'après son départ, je me rends compte qu'il a oublié son portefeuille rempli d'une grosse liasse de billets. La tentation pourrait me dire, mon frère connaît ma situation, il sait ce que je vis, les moments compliqués, et il comprendra certainement si je lui prends quelques billets. Ou bien, il comprendra si je lui force un peu la main. Vous comprendrez bien que ce serait injuste d'agir comme ça. Et Paul était dans cette situation-là. Il avait besoin d'Onésime, mais il savait aussi ce que la loi demandait. Et l'honnêteté vis-à-vis de Philémon, même si Philémon était un maître chrétien, il savait qu'Onésime, c'était son esclave qui lui appartenait. Alors Paul a agi avec fidélité et honnêteté, et c'est ce que Dieu nous demande. Paul était donc dans cette situation très critique. Et comme je disais, Onésime lui rendait de très grands services. Cependant, il a décidé d'agir avec droiture afin qu'Onésime puisse aussi régler sa situation avec son maître. En agissant ainsi, Paul a montré aussi bien à Onésime que Philémon que sa vie reflétait bien ce qu'il professait. Au verset 16, Paul dit, on va le lire, verset 16, donc juste avant verset 15, « Peut-être en effet a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais ce qui est mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il est tout particulièrement pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, et dans la chair, et dans le Seigneur ?» Paul rétablit Onésime dans sa dignité d'homme et en tant que frère en Christ. Il faut savoir qu'à l'époque, les esclaves n'avaient aucune condition. Ils étaient considérés comme des objets, comme des animaux, qu'on utilisait pour différentes choses, faire différents travaux, activités, et ils n'avaient aucun statut. Et là, on voit que Paul rétablit Onésime dans sa dignité. De la même manière que Christ nous rétablit dans notre dignité humaine quand nous venons à lui, de même Paul agit pour Onésime de la même manière vis-à-vis de Philémon. Paul, sans jamais le citer clairement, demande en fait quoi à Philémon ? Il demande de pardonner à Onésime de tout mal qu'il aurait pu lui faire. Non seulement il lui demande de lui pardonner, mais aussi il lui demande de le recevoir non plus comme un esclave, mais comme un frère, c'est-à-dire comme quelqu'un égal à lui. Donc, comme on vient de voir, Paul souhaite que Philémon reçoive son esclave Onésime comme un frère en Christ et qu'il le considère égal à lui-même. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au verset 19, Paul va jusqu'à dire à Philémon qu'il lui rembourserait toutes les dettes qu'Onésime avait vis-à-vis de lui. Onésime était maintenant libre par rapport à son maître Philémon concernant la dette, puisqu'on a vu qu'il s'était enfui et qu'il avait certainement volé des choses pour sa fuite et partir à Rome, parce que c'était connu et c'est ce qui se passait souvent en Antiquité, c'est que les esclaves qui fuyaient leur maître allaient à Rome, parce que c'était une très très grande ville, et pouvaient se fondre voilà, dans la masse. Et Paul a dit à un moment donné dans un verset, mais est-ce que le fait qu'il ait fui et qu'il soit venu à Rome, est-ce que en fait c'est pas Dieu qui l'a voulu, puisqu'on voit qu'en fait, en fuyant à Rome, Dieu a cherché et a trouvé Onésime et a permis à ce que son cœur soit changé par le témoignage de Paul. Est-ce que le comportement de Paul ne vous rappelle rien? On peut faire le parallèle et se dire que Paul a agi une fois de plus comme son maître Jésus-Christ, qui a payé aussi notre dette à tous et qui nous a ainsi rendus libres de l'esclavage du péché. Amen. Jésus-Christ a payé notre dette et Paul, une fois de plus, agit comme son maître Jésus-Christ. Il parle et ses actes suivent ce qu'il dit. On dirait que son comportement est en phase avec ce qu'il professe. Le verset 22 est intéressant et peut nous apprendre aussi beaucoup de choses. Verset 22, en même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Ici, on voit l'humilité de Paul, le grand apôtre Paul, qui a créé énormément d'églises, qui pouvait humainement se glorifier de beaucoup de choses, mais on voit que Paul compte aussi sur la prière de l'Église. Et il est conscient que c'est les prières des frères et sœurs qui va faire bouger sa situation et qui va permettre qu'il soit libéré de sa prison à Rome. Paul reconnaît, comme je viens de dire, l'importance de la famille de Dieu et le rôle de l'Église. Et on voit que nos frères et sœurs du premier siècle se réunissaient déjà pour prier et que Dieu répondait à leurs prières. Amen. Ici, on voit la puissance de la prière, l'encouragement aussi que Paul donne à l'Église, puisqu'il n'est pas dit, il dit à vos prières au pluriel. Et là, c'est pas la prière de Philémon, mais c'est vraiment la prière de la communauté tout entière qui se réunissait dans la maison de Philémon. Nous voyons déjà l'importance, vous voyez où je veux en venir, de la réunion de prière dans nos églises. C'est pas quelque chose de superflu, mais bien au contraire. Et ceux et celles qui viennent à la réunion de prière peuvent vous témoigner que Dieu agit, si bien que un mardi, on a prié que pour être reconnaissant et remercier le Seigneur pour tous les sujets auxquels il a répondu. On était étonnés, d'ailleurs, on s'est posé, David a dit, mais on avait prié pour un tel, un tel, un tel, un tel. Dieu a répondu. Alors Dieu n'a pas répondu toujours de la façon dont on voulait, mais Dieu avait répondu, et la réponse de Dieu est toujours parfaite. Voilà, en conclusion, à nous ce matin, à la suite du message que nous avons entendu, de nous poser les bonnes questions, et peut-être des questions qui peuvent nous fâcher, qui peuvent, comme je le disais en introduction, nous remettre en question sur nos croyances ou bien sur notre vie actuelle. Comment est-ce que nous sommes? Comment nous nous situons sur le chemin et dans la foi avec Christ? Première question, quel témoignage les autres entendent de nous? Sommes-nous une personne comme Philémon qui croit et fait confiance à Christ en pratiquant l'amour avec ses frères et sœurs? Ou bien est-ce que notre témoignage ne reflète pas l'amour de Christ? Autre question, sommes-nous honnêtes dans notre travail, dans notre vie de tous les jours? Sommes-nous prêts à renoncer à des gains justes pour obéir à Dieu et ainsi placer notre confiance en Jésus-Christ et croire qu'il ne nous délaissera jamais? Sommes-nous comme des apothicaires qui tenons des comptes sur toutes les dettes liées au mal que peuvent nous faire nos frères et nos sœurs? Ou bien sommes-nous comme Christ qui a payé notre dette que nous ne pouvions pas rembourser en pardonnant aussi notre dette à nos frères et sœurs? Utilisons-nous notre position d'autorité comme pour manipuler les autres? Ou bien est-ce seulement l'amour qui nous motive dans toutes nos décisions? Sommes-nous comme Paul, et nous l'avons vu ce matin, un artisan de paix que Dieu utilise pour réconcilier les uns avec les autres, comme il l'a fait avec Philémon et Onésime? Comme Paul a pu écrire dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Pouvons-nous aussi dire ce matin, « Imitez-moi comme moi-même j'imite le Christ. » Alors c'est vrai, vous voyez, c'est des questions qui peuvent déranger, qui peuvent nous bousculer, mais qui sont importantes que nous nous posions afin de savoir où on en est avec le Seigneur. Et gloire à Dieu, car si nous ne pouvons pas répondre positivement à ces questions, nous avons un avocat auprès du Père qui est prompt à nous pardonner si nous demandons pardon. Amen. Dieu ne nous demande pas ici-bas d'être parfait. Ce que Dieu nous demande, c'est de reconnaître notre péché, nos erreurs à chaque fois que nous tombons, à chaque fois que nous trébuchons, et lui demander pardon. Et vous savez quoi? Dieu efface votre péché, mon péché, et il s'en souvient plus. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il ne se souvient plus de nos péchés. Malheureusement, nous sommes humains, je me souviens encore de mes péchés, ça peut me culpabiliser, ou bien des frères et sœurs peuvent se souvenir de notre péché, mais Dieu, lui, ne se souvient plus. Comme disait Marlène, Dieu, on ne le comprend pas. Comment Dieu agit et comment nous, êtres humains, nous réagissons des fois, on n'arrive pas à comprendre la grandeur, l'amour, la perfection de Dieu. Alors, chacune de ces questions, que nous puissions personnellement y répondre afin de pouvoir être honnête vis-à-vis de Dieu, ne rien lui cacher, mais lui demander sa grâce afin de pouvoir se relever, continuer, pour que nous puissions continuer à être ces lettres ouvertes et que notre témoignage puisse refléter l'amour de Dieu, puisse refléter la foi en Jésus-Christ, puisse refléter le pardon que nous pouvons accorder les uns aux autres. Voilà, je vous invite à prier maintenant.